Bonjour. Alors, si je suis là, c'est vraiment un hasard ce matin. Laissez-moi vous expliquer. C'est notre fils Luc qui devait donner son témoignage. Luc devait donner son témoignage et il est malade. Et hier, il m'a dit, papa, on a beau prier, mais là, je pense que demain matin, je reste au lit, température, etc. Et là, je me suis dit, c'était 11h30 du soir. Je me suis dit, bon, on avait parlé un petit peu à Johan. J'ai commencé à esquisser quelques traits de ma vie, de conversion. J'ai dit, bon, Johan va donner son témoignage, c'est bien. Et puis, je vais lui laisser la place, hein, c'est bien. Et puis, ce matin, il me dit, oh, j'ai rien préparé, j'ai pas eu le temps. Et donc, me voici, me voilà. C'est la raison pour laquelle. Mais franchement, comme on dit les Québécois, j'aurais beaucoup aimé être dans un petit déjeuner comme cela une autre fois avec mon épouse. On avait planifié un petit peu une autre fois de donner nos témoignages ensemble. Alors, comme on n'est qu'une seule chair, elle ne le sait pas vraiment, mais je lui fais la surprise de lui demander de venir, peut-être plus courtement, de donner un bref témoignage. Bref témoignage. Parce qu'on est un couple uni dans le Seigneur, et ce serait dommage, quitte à le refaire une autre fois plus détaillé, là ça va être une esquisse, mais je vous présente mon épouse bien-aimée, Loïs.
Oh, mais mon mari s'est préparé, mais moi pas. Alors je vais juste vous raconter ce qui s'est passé pour moi. Alors mon papa était pasteur, mais d'une église anglicaine. Et j'entendais toujours prêcher, il faut être bon avec les autres. Mais je n'ai pas vraiment compris le salut. Et quand mes parents ont eu des problèmes conjugaux et se sont séparés, j'ai tout mis en question. Je ne croyais plus, je ne savais plus ce que je croyais. Et j'ai commencé à lire la Bible toute seule, en cachette, dans le gymnase derrière, dans les pièces pour les filles. Et c'est comme ça que ça a commencé pour moi, lire la Bible, tout ça. Mais un an plus tard, ma cousine est venue me rendre visite. Elle était au Texas et elle avait été dans une église baptiste. Et elle avait pris des traités et elle avait vu les chrétiennes qui étaient là. Elle a dit, Loïs, si tu les avais vus, ils sont rayonnantes. Je dis, bon, j'aimerais bien avoir ça. Et elle m'a donné les traités. Et je lisais les traités. Je me suis dit, je suis chrétienne, mon papa était pasteur. Et mais le Seigneur, il n'a pas arrêté de me parler pendant 2 semaines. Une nuit, j'étais seule dans ma chambre et je lisais justement le simple plan du salut. Et je sentais une pression et je sentais que je ne pouvais presque pas respirer et que quelque chose me poussait et que si je mourais là, cette nuit-là, j'irais en enfer. Je me suis mis à côté de mon lit et j'ai crié, Seigneur, pardonne mes péchés, purifie-moi et j'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Et je te demande de me sauver. Et si tu me sauves, je te servirai toute ma vie. Et j'ai comme eu une vision que je voyais les anges chanter au ciel de joie. Et je n'ai pas arrêté de louer le Seigneur toute la nuit. Après, je voulais savoir ce que c'était d'être baptisée. Je suis allée dans une église baptiste. Et je me suis fait baptiser. Et le couple qui était en charge des jeunes dans l'église baptiste m'a envoyé gratuitement dans un camp chrétien. Et dans le camp chrétien, il y avait un homme qui montrait des diapositives de la France et des jeunes qui allaient tout de suite en France servir le Seigneur après le lycée. Et Dieu, il me semblait connaître toutes les personnes qui étaient sur ces diapos alors que je ne les avais jamais rencontrées. Et en fait, c'était Dieu qui m'appelait. Et c'est comme ça que je me suis trouvée un jour en France dans cette école biblique qui allait la moitié de la semaine commencer des églises en France. Et je loue le Seigneur d'avoir eu pitié de moi au milieu de rien. Il m'a envoyé son salut parce qu'il m'aimait tout simplement.
Voilà, c'est Louise, je m'appelle Michel, et je suis un peu plus âgé que les autres qui ont donné leur témoignage.
C'est-à-dire que j'ai 20 ans et plus, mais je ne vous dis pas combien. D'ailleurs, c'est tout proche, hein, mon anniversaire. Alors, en fait, je remercie le Seigneur. Je suis né à Toulouse, et puis j'ai fait des études d'architecture ici à Toulouse. Mais avant, j'habitais Cazes dans le Tarn. Mon père était directeur des laboratoires Pierre Fabre. Et aussi, quand nous sommes connus, Louis et moi, c'était à Toulouse, on s'est mariés aux États-Unis, on est partis au Canada, et on a eu 6 enfants qui sont nés au Québec. Alors, ils sont canadiens de sol, américains de la maman et français du papa. Mais on remercie le Seigneur, Louis et moi, de la fidélité, de sa fidélité qui nous a placés ensemble, et la façon avec laquelle il a agi, notamment dans notre couple, mais aussi dans la vie de nos enfants. Alors, je peux remercier le Seigneur du fait que j'étais dans une famille où papa et maman s'aimaient. Mes parents s'aimaient tendrement, et beaucoup de gens témoignaient du fait que c'était un beau couple. Alors, mon papa ne fréquentait pas particulièrement l'église, ma maman était assez catholique, donc j'ai bénéficié d'une éducation religieuse, et notamment à Toulouse, un certain temps, au Caouzou, et puis après au petit séminaire de Castres, dans le Tarn. Alors, j'ai été élevé donc religieusement, et finalement, je me suis laissé embarquer, et volontairement, hein, dans toutes sortes d'activités. J'étais brancardier à Lourdes pendant 3 étés, et comme j'avais une certaine compassion, j'ai rencontré des personnes âgées qui avaient besoin de nourriture. Je fais partie de la conférence Saint-Vincent de Paul, et toutes les semaines, j'amenais un paquet de nourriture à ces 2 vieilles personnes qui étaient dans la misère, il faut dire, matérielle. Et puis j'ai enseigné le catéchisme en terminale. Les prêtres au petit séminaire de Cazes m'ont demandé si je voulais enseigner le catéchisme. Bon, j'ai enseigné le catéchisme. Ça ne m'a pas rendu meilleur, hein, je vous le dis de suite. Et puis, j'ai fait des retraites en Calcate avec le père Stanislas, qui était un conférencier très connu à l'UNESCO. Et de temps en temps, en tant qu'école, on nous envoyait faire des retraites et réfléchir sur le sens de la vie ou sur Dieu avec ce père qui s'appelait père Stanislas. Alors, j'ai été élevé dans un milieu qui était très strict. J'ai connu, moi, l'obligation d'aller à la messe dans la semaine et même d'aller aux vêpres le dimanche après-midi. Alors, rentrer à l'école et aller aux vêpres le dimanche après-midi, on a plutôt envie, nous, d'aller faire une partie de football, de faire toutes sortes de choses. Mais, quelque part, c'était la façon avec laquelle on était élevé. Alors, on a été élevé dans un sens de morale, de conscience, le bien et le mal. Et par la grâce de Dieu, je dois dire que j'ai toujours cru en Dieu. Ça a été une grâce dans ma vie. Je ne me suis jamais posé la question si Dieu existait ou non. J'ai toujours cru que Dieu existait comme cela. Sans raison particulière, j'ai toujours cru que Dieu existait. Maintenant, quand on est élevé dans une religion avec une certaine morale, une certaine éthique, et on vous dit qu'il faut faire le bien, etc. Rapidement, j'ai eu des conflits de conscience entre ce que je voulais être, même ce que je pensais être, et ce que j'étais réellement. Et je me souviens quand j'allais me confesser à l'école devant un prêtre, je me souviens, j'avais la joie en prêt, je sautais un peu, je bondillais, ma conscience était à nouveau soulagée, mais je recommençais toujours les mêmes choses et je devais revenir me confesser. Alors, l'orgueil, l'égoïsme, le mensonge, finalement, j'étais jamais délivré et je connaissais pas le passage de Paul qui dit je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je hais, qui me délivrera de ce corps de péché. Finalement, je sentais une lutte intérieure dont je ne pouvais pas exprimer l'enjeu, mais je voyais qu'il y avait une bataille avec mon moi, ma chair, mon péché, et avec toutes sortes de tentations. Il y avait un mal-être qui venait parce que ma conscience devenant prohibitive, accusatrice, vu entre ce qu'on m'avait dit de faire et ce que j'étais capable de faire, il y avait une telle différence que je me sentais toujours coupable. Et donc, j'avais un certain malaise intérieur que j'essayais de combler par toutes sortes d'activités, notamment dans ma vie, par la passion du sport. Alors, j'étais engagé dans toutes sortes de sports, avec plus ou moins de succès, on va dire, mais pour moi, c'était quelque part comme un échappatoire de pouvoir un peu être bien dans sa peau et retrouver un équilibre. Alors, dans cette retraite, en Calcutta, je me souviens, le père Stanislas nous avait offert à chacun un Nouveau Testament. Et donc, j'avais commencé de le lire, je me souviens, et j'avais rien compris. C'est comme on dit l'hébreu, mais enfin, une langue inconnue, je lisais, je ne comprenais rien. Moi, je savais qui était Jésus-Christ, on me l'avait dit, etc. Mais en fait, je me suis aperçu que j'étais incapable de comprendre ce que disait le Nouveau Testament. Je l'ai donc mis de côté et j'étais toujours quelque part finalement, malgré le fait d'être comblé par toutes sortes de biens, et je n'étais pas heureux. Et je crois qu'inconsciemment, je cherchais le bonheur dans la vie, et je me posais toutes sortes de questions sur le sens de la vie. Alors j'avais un ami qui s'appelait Jacques Fabre, qui était en fait le neveu de Pierre Fabre, celui qui a fondé les laboratoires Pierre Fabre, avec qui j'étais très ami. On a fait beaucoup, beaucoup de bêtises ensemble. Mais une fois, il m'a dit, écoute Michel, j'ai cette grosse Bible-là, je ne sais pas quoi en faire, mon père me l'a donnée. En fait, c'était un chrétien évangélique qui avait donné à son père une Bible. Il m'a dit, tiens, je te la donne. Moi, je dis, oui, pourquoi pas. Je l'ai mis dans un tiroir. Et je ne l'ai jamais lu jusqu'à ce que. Mais à cette époque-là, j'avais à peu près 14 ans, j'avais dans mon esprit tout d'un coup l'idée, il faudrait que je sois baptisé protestant. Mais pourquoi ça s'est venu dans mon esprit, hein? Comme a dit Fanz, c'est vraiment la souveraineté de Dieu. Pourquoi être baptisé protestant alors que j'étais profondément catholique? Et puis, mes parents ont fait la rencontre d'un architecte qui a dessiné leur maison. C'est une colline, une belle maison, avec la vue sur la ville. Et il parlait des choses de Dieu. Et comme dans notre éducation, on ne connaît que le catholicisme et l'histoire du protestantisme est vue sous l'angle de la religion catholique. À l'école, on apprend quand même certains événements historiques concernant le protestantisme. Je me suis dit, il est peut-être témoin de Jéhovah, sans savoir même ce que c'était un témoin de Jéhovah. Mais comme on ne connaissait rien, et que mes parents étaient assez méfiants d'ailleurs un petit peu, bon, ceci dit, alors, il m'intriguait cet homme-là. Et puis, il y a eu un drame dans notre famille, c'est que j'ai un cousin de ma mère, avec qui elle était très proche, et on était deux familles, on partait souvent en vacances, qui est décédé dans des circonstances dramatiques. Alors, c'était un radiologue à Toulouse qui avait un magnifique bateau et qui est sorti en bateau un soir où il y a eu finalement une tempête. Et quand il a voulu rentrer au port, eh bien, la tempête se déchaînant, il y a eu une lame de fond qui l'a projeté en dehors du bateau. Alors, il fait l'erreur en tant que barreur de ne pas s'être attaché. Et donc, son épouse et le marin qui était avec lui l'ont retrouvé, mais après une heure, dans le noir, etc. Il a essayé de monter sur le bateau, il glissait, on l'a tenu, il a mis le pied sur l'échelle, et puis finalement, il a reglissé. Bon, finalement, il est décédé. Mais ça a été un choc terrible pour moi, parce que c'était la première fois où je confrontais vraiment la mort de quelqu'un qu'on connaissait bien, et ça m'a fait poser beaucoup de questions. Dans ma tête, je me disais, c'est un homme assez arrogant, assez sûr de lui, et parfois injuste, et je me dis, mais est-ce que c'est un châtiment de Dieu? Ça m'était venu à l'esprit, comme ça, pourquoi, je ne sais pas. Et puis, juste 6 mois après, alors c'est ma maman bien-aimée qui est décédée dans un accident, elle s'est endormie au volant de la voiture, enfin, suite à un médicament qu'elle prenait, elle a eu un malaise, je pense, et sur la roue de revers, alors qu'elle était infirmière, elle revenait d'une visite et elle s'est endormie. La voiture s'est déplacée finalement, est allée contre un platane. Et moi, ce soir-là, ben, j'étais ailleurs. J'étais à Toulouse, j'étais étudiant et on est venu me chercher. Et finalement, elle est décédée suite à cet accident. Il n'y avait pas encore la ceinture de sécurité. C'est une voiture assez puissante. Et finalement, donc ma maman est décédée et j'avais 19 ans. Et là, c'est tout un monde qui s'est écroulé parce que non seulement l'amour, l'unité d'un père, une mère en tant qu'enfant nous bénit, nous donne un équilibre, une assurance affective et autres. Et là, c'était un monde qui s'écroulait. Et donc, quelque part, après cela, ben, j'ai voulu combler ma vie de toutes sortes de choses. Alors, ben, je ne peux pas vous dire, Fanz a donné une liste, c'est à peu près pareil. Et oui, je suis allé dans des boîtes de nuit, je me suis même saoulé parfois. Et je regrettais, un soir dans ma chambre, j'avais une dispute avec quelqu'un, j'ai pleuré parce que je me disais, mais c'est bête, tu ne vis pas ce que tu as envie de vivre finalement. Et je vivais quelque chose qui était différent vraiment de ce que je pensais que je devais vivre. Alors, comme étudiant en architecture, il fallait faire des stages. Et donc, je suis allé voir l'architecte, le seul que je connaissais à Castres. Et j'ai eu cette visite donc, chez ce couple. Et tout d'un coup, j'ai réalisé que ces gens-là avaient quelque chose que je n'avais pas. Leurs yeux pétillaient de quelque chose que je ne pouvais pas exprimer. Ils avaient, bon, maintenant je peux dire qu'ils avaient l'amour, mais je ne savais pas ce que c'était. Et tout d'un coup, alors que je ne les connaissais pas, presque pas, je me suis confié en eux et je leur ai raconté ma vie et certaines difficultés à ce moment-là que je traversais. Et ils m'écoutaient. Et là, ça m'a vraiment étonné. Pour la première fois, je me sentais écouté. Ils avaient une écoute active, ils étaient attentifs et ils s'intéressaient à ce que je disais et à ma personne. Et ça m'a interpellé. Et je me suis dit, ces gens-là, ils ont quelque chose que j'aimerais bien avoir. Alors, ils m'ont offert une Bible. J'en avais déjà une, mais la dame, Madame Supervier, ma maman spirituelle, je l'appelle comme ça, elle me dit, Michel, tu voudrais une Bible ? Je dis non. Donc, je suis parti. Mais à cause de ma bonne éducation, rentrant dans la voiture, je me suis dit quand même, tu as refusé un cadeau, c'est pas bien. Donc, je suis revenu chercher le cadeau qu'on m'offrait. J'étais sincère dans le processus de bonne éducation, si vous voulez. Mais lire la Bible, je ne m'étais pas du tout engagé. Hein. J'ai dit, bon, je l'apprends. C'est qu'en fait, je l'ai lu. Et donc, tous les matins, avant de partir à l'école d'architecture, je lisais une demi-heure la Bible. Et là, je me suis révolté. Moi, le bon petit catholique, bon chrétien, bon servant des pauvres et des misérables dans la vie, je me suis trouvé révolté, rebellé et incrédule. Il me dit, mais quel est ce Dieu, Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, je suis le chemin, la vérité et la vie, mais pour qui il se prend? Et pourquoi pas Mouda? Et pourquoi pas Mahomet? Je me disais chrétien. Et tout d'un coup, je réalisais que finalement, ce que je lisais me révoltait parce qu'en fait, et c'est l'Esprit de Dieu qui me l'a convaincu, j'étais en rébellion contre Dieu lui-même. Et alors, j'ai commencé à raisonner. Je me suis dit, mais les gens qui me... Dans cet architecte, ils sont allés, ils disent, on est sauvés, on a la vie éternelle. Je dis, oh là, pour qui se prennent ces gens-là? Puis après, il m'amène dans une conférence, l'armée du salut, on parle de l'élection. Et puis moi, il me dit, mais attends, l'élection de Dieu. Alors, ça veut dire que Dieu choisit ceux qui vont être sauvés, ceux qui vont être perdus. Et pourquoi moi, je serais sauvé, l'autre perdu? Et pourquoi je serais perdu? Et je trouvais ça tellement injuste. Et pourquoi les souffrances dans le monde? Et pourquoi tellement d'injustices? Pourquoi la maladie? Et là, j'ai commencé à étudier dans ma petite tête non formée en théologie l'élection, la prédestination. Et plus j'ai essayé de comprendre ça, plus je m'enfonçais dans la confusion et sans aucune assurance d'aucune sorte. Mais je disais, est-ce que Dieu est aussi injuste de permettre que des gens soient sauvés et que d'autres soient perdus pour l'éternité? Mais au travers de toute cette démarche, petit à petit, j'ai été convaincu qu'il y avait un ciel et un enfer. Et j'étais convaincu de péché. Mais pendant des mois, au moins, oui, je crois, des mois, j'étais convaincu de péché, mais je me voyais comme Dieu me voyait finalement. Mais c'était terrible. Et j'ai eu peur, et j'ai eu une crainte terrible de mourir et d'aller en enfer. J'ai compris qu'il y avait un ciel et un enfer. Et je lisais l'histoire du jeune homme riche qui n'avait pas voulu quitter ses richesses, qui avait préféré l'amour de ses richesses en Matthieu 19, que de se donner à Jésus. Pourtant, il avait envie de la vie éternelle, le don suprême, mais il a préféré ses richesses au bien suprême. Il dit, oui, mais moi, quand même, j'ai ça, je veux mes études, etc., je veux arriver. J'avais toutes sortes d'ambitions et je ne donnais pas la première place à Jésus-Christ. Et j'étais parti tout triste, comme le jeune homme riche. Mais quelque part, au travers de cela, il y a un verset qui m'a beaucoup fait de bien dans ma recherche et je suis entré dans un certain combat spirituel. La Bible dit, demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Et dans ma petite foi, parce que j'étais tellement incrédule et orgueilleux, que j'ai dit, Seigneur, bon, bah, écoute, si c'est ça, alors je persévère. Et c'est grâce à ce verset que j'ai persévéré, enfin, dans ma compréhension des choses. Je me dis, Seigneur, mais je voyais que j'avais un problème sérieux, j'arrivais pas à croire. Et un jour, je dis ça pour glorifier le Seigneur, pas dit souvent, mais dans une nuit, j'ai fait un rêve et j'ai vu comme le buisson ardent. J'avais lu l'histoire du buisson ardent, puisque ça faisait 6 mois que je lisais la Bible tous les matins. Et là, j'ai vu comme la sainteté de Dieu, d'une pureté mais extraordinaire. Et moi, je me suis vu tellement sale et dégoûtant que j'ai crié à Dieu, Seigneur, sauve-moi. Mais si vous saviez le nombre de fois que je l'ai fait, et j'ai rien senti, rien éprouvé, et rien ne se passait. Et même une fois, Dieu a permis un autre rêve dans ma vie, où, parce que je commençais à entendre parler du retour de Jésus-Christ, tout ça, bon, ça piquait ma curiosité. Et on parlait du retour de Jésus-Christ. Et tout d'un coup, dans mon rêve, voilà, il y avait plein de Christ sur la terre qui étaient là. Et moi, je n'arrivais pas à savoir quel était le bon. Je me réveille, je dis, mais si tu n'es pas capable d'identifier celui qui est le bon, c'est que tu ne le connais pas. Tu te dis chrétien, tu commences à connaître un petit peu la Bible, mais en fait, tu ne connais pas Jésus-Christ. J'essayais de me sauver moi-même, en fait, intellectuellement, émotionnellement. Et alors, il y a un pasteur de Castres qui s'appelait pasteur Bétex. C'est l'église libre où je suis allé, emmené par le couple d'architectes. Enfin, lui était architecte. Et alors, il m'a donné un livre, et ceux qui me connaissent vont de suite l'identifier. Charles Studd, champion de la foi, écrit par son gendre Norman Krubbe. J'ai lu ce livre et j'ai été bouleversé. Parce que là, ma foi a été confondue d'un homme de foi qui plaçait sa confiance en Dieu. Je pouvais m'identifier un peu dans certains traits de sa part parce qu'il avait beaucoup résisté à la conversion. Il parlait de cela plusieurs fois. Son père frappait tous les matins à la porte de sa chambre. « Alors Charles, es-tu converti ? As-tu donné ton nom, ta vie au Seigneur ?» Et puis il résistait. Puis un jour, ils ont envoyé un pasteur pour parler à Charles. Et son père lui dit, bon, ben, on va faire un tour à cheval. À l'époque, il n'y a pas de voiture. Hein. Alors, Charles Studd, il a été un peu rusé. Il a donné le cheval le plus fougueux qu'il y avait dans l'étable. Et il s'est dit, celui-là, le pasteur, je vais l'avoir. Le problème, c'est que le pasteur était très bon cavalier. Donc, il est resté sur sa monture. Et de retour à leur demeure, c'est une famille extrêmement riche. Alors, le pasteur dit, Charles, je peux te parler un petit peu. Et puis, c'est lui qui l'a amené au Seigneur. Et cet homme qui était champion du monde de cricket, un sportif, dont je m'identifiais avec lui en cela, il a donné sa vie au Seigneur. Et il est parti en Inde, en Chine, en Afrique. Et au travers de sa vie missionnaire, il y a eu tellement de miracles, de foi, de confiance en Dieu, dans des circonstances très difficiles. Notamment une fois, sa femme tombait malade, avait vraiment besoin de soins. Il y avait un problème d'argent. Il a prié par la foi et Dieu a guéri sa femme. Et là, je dois dire, en voyant non pas la foi théologique, intellectuelle, parce que j'avais tout intellectualisé. Je lisais la Bible, mais j'ai intellectualisé, comme j'avais fait dans mes études. J'essayais de comprendre de façon intellectuelle. Et là, j'étais face à la réalité pratique des conséquences de quelqu'un qui vit par la foi. Et là, ça m'a bouleversé. Un homme de foi qui a tout donné au Seigneur. Et je me suis dit, cet homme-là, il a quelque chose de vraiment, c'est réel, sa vie. Alors, il était passionné, petite illustration que je cite souvent, il disait, moi je me lève tous les matins à 5 heures, je lis la Bible et je frappe sur le diable avant qu'il me frappe dessus. J'ai toujours retenu ça. Bon, Alors, c'était nouveau pour moi. Pidi, il a, dans son témoignage, il disait, moi, tous les jours, pratiquement, je lis le chapitre d'Hébreux, chapitre 12, chapitre 11, les héros de la foi. Je me dis, waouh, je vais aller lire ça. Je ne connaissais pas trop la Bible, donc je cherche Hébreux, je trouve Hébreux, héros de la foi, etc. La foi est une démonstration de celle qu'on ne voit pas, etc. Une ferme assurance. Je vois ça, je ne comprends pas très bien. Je dis, tiens, je vais continuer, c'est intéressant. Je lis chapitre 12, chapitre 13. Je dis, tiens, c'est fini, c'est dommage, c'était intéressant. Et j'ai fait, pour la première fois de ma vie, quelque chose que je n'ai jamais fait auparavant. J'ai lu le livre à l'envers. Moi, j'étais à l'envers, mais vous allez voir que Dieu m'a mis à l'endroit après. J'ai lu chapitre 10, chapitre 9, chapitre 8, chapitre 7, chapitre 6 et chapitre 5. Et en lisant les mots, la phrase suivante, Dieu l'ayant déclaré selon souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, écoutez-moi bien, ce sont ces mots-là, selon l'ordre de Melchisédek, qui m'ont sauvé. Laissez-moi vous expliquer ça. Il faut le faire quand même. En hébreu, il est question de gens religieux qui ont, certains, un pas dans la synagogue ou dans le judaïsme et un pas dans l'église. Et puis, ils sont indécis. Un jour, c'est oui, la synagogue, un jour, c'est oui, l'église. Ils sont oui tout le temps, non et oui. Bon, ils sont indécis. Et l'auteur, l'épître aux hébreux, leur démontre que Jésus-Christ est supérieur en tout. Donc maintenant, il faut qu'ils acceptent Jésus. Il n'y a pas d'autre salut. Ce n'est plus la religion qu'il faut, c'est une personne, hein. D'ailleurs, le mot religion, reliare, signifie relation. C'est une relation avec Dieu qu'il faut, pas une religion. Alors, en lisant l'Épître aux Hébreux à l'envers, il faut le faire quand même. Le Saint-Esprit a eu tellement pitié de moi, pitié vraiment, qui m'a montré que Jésus-Christ est supérieur en tout. Supérieur aux prophètes, supérieur aux sacrificateurs, supérieur à Moïse, etc. Et tout d'un coup, je tombe donc sur chapitre 5. Et là, ça a vraiment percé mon cœur. C'est de lui... Dans les jours de sa chair, a présenté avec des grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris. Alors, sauver de la mort, certainement au jardin de Gethsémané, hein, où Jésus a dit, toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Parce qu'il aurait pu mourir là, avant la croix, tellement la vision de la croix, physiquement et spirituellement, la séparation de Dieu le Père, l'avait complètement terrassé, Jésus, notre Seigneur. Et bien qu'il soit fils, il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par la chose qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain, sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek. Et j'avais lu, à l'Épître aux Hébreux, que Melchisédek, il n'y a pas de généalogie, il n'a ni commencement ni fin. Et c'est vraiment Dieu qui m'a enseigné la théologie. Je dois dire, ce n'est pas moi qui étais capable de comprendre tout ça. Dieu m'a tiré à lui par sa grâce. Il m'a montré, mais si Jésus est supérieur à Melchisédek, il n'a plus de commencement ni fin. Jésus est éternel. Quand il dit qu'il offre un salut éternel, c'est vraiment éternel. Parce que moi, je disais, bon, on est sauvé un jour. Ouais, on va essayer. Parce qu'en tant que catholique, on dit, bon, pour être sauvé, il faut être parfait. Dans ma tête, en tout cas, ma théologie, je dis, bon, pour que je sois sauvé, il faut que je sois parfait. Et comme j'étais un imparfait de tous les jours et de tout instant, je ne pouvais jamais être sauvé. Et donc, j'étais vraiment malheureux. Jusqu'à ce que Dieu me montre que Jésus a pris mes péchés à la croix, passé, présent et à venir. Parce qu'il est un sacrificateur éternel qui a donné un sacrifice éternel pour nos péchés. Et c'est grâce à cet enseignement, par la grâce de Dieu, que j'ai été sauvé et je me suis mis au bord de mon lit. J'ai à genoux jusqu'à 11h minuit, j'ai confessé à Dieu une faute que j'avais faite dans ma jeunesse qui me pesait. Et tout d'un coup, j'ai ressenti la paix, la joie du Seigneur. J'ai ressenti pour la première fois de ma vie l'amour du Père. Et c'était extraordinaire parce que j'avais un Père, mais je ne peux pas entrer dans les détails. Parfois, je n'avais pas une relation parfaite avec mon Père. Et tout d'un coup, pour la première fois de ma vie, je ressentais l'amour de Dieu le Père et puis le pardon des péchés. C'était extraordinaire, j'avais une paix, une joie, toute la soirée, tard dans la nuit, j'ai tellement eu des fleuves d'eau vive qui sont venus sur moi, me remplir de la présence de Dieu, de son Fils, de son amour, de sa paix, de sa joie. C'était un monde nouveau. Et après tout ce combat spirituel, c'était l'océan d'amour de Dieu et de sa paix qui entrait dans mon cœur et qui me transformait. Avec l'assurance de la vie éternelle, et je me suis souvenu de ce verset qui dit « Celui qui a le Fils a la vie ». Et là, il n'y avait plus de doute, j'avais vraiment le Fils. Et je me suis endormi dans la paix. J'étais étudiant à Toulouse, là, c'était pas loin d'ici d'ailleurs, dans ma chambre. Et le matin, je me suis réveillé avec une paix profonde. Mais vraiment une paix extraordinaire. Mais en même temps, 10 minutes après m'être levé, un fardeau terrifiant. Mon père et mon frère sont perdus. Ils vont passer l'éternité en enfer. Et ce fardeau, ça fait plus de 40 ans que je le porte. Parce que Dieu veut sauver. Dieu aime et veut sauver. Et je prie encore pour eux. Et depuis ce temps-là, j'ai compris ce que Jésus avait comme fardeau pour les âmes. Et un jour, alors que j'étais à Paris, on m'appelait à travailler pour l'implantation d'une église. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que j'aille là, il faut me donner le fardeau des âmes. Et j'étais au plateau Beaubourg, à Centre Georges Pompidou. J'étais juste un visiteur, j'aime bien l'architecture, donc je visitais ça. Et tout d'un coup, j'ai senti l'amour pour ces gens-là. Et j'ai dû me mettre dans un coin et pleurer des larmes de Jésus-Christ pour le salut des âmes. Et depuis ce temps-là, Dieu, je crois, c'est un appel qu'il m'a donné, et je crois que c'est pour chacun de nous, nous appelle à témoigner de lui. Alors c'est ce que j'ai fait. Mais quelle persécution! Mon père a dit à tous mes amis que j'étais entré dans une secte, des amis d'enfance qui commençaient à avoir plein de doutes sur moi. Et sans se rendre compte, le malin l'utilisait pour m'attaquer. Alors dans ma famille, j'ai été rejeté, j'ai perdu des amis. Évidemment, je n'allais plus aux endroits où ils allaient, je ne faisais plus ce qu'ils faisaient. Donc je devenais quelqu'un d'anormal, à la limite dérangé. Mon père a même tenté de m'envoyer chez un psychiatre parce qu'il se demandait qu'est-ce qui se passait. Heureusement, c'était un copain avec qui je jouais au tennis, donc ça s'est vite réglé. Mais c'était une persécution qui était très difficile à porter. Mais un jour, j'ai un ami, je termine un petit peu avec ça, j'ai un ami qui a perdu sa femme, qui avait eu des moments très difficiles en tant qu'étudiant. Bon, il ne s'entendait pas avec sa famille, il s'était drogué. Et, bon, il était parti en Allemagne, il travaillait pour le Der Spiegel comme journaliste. Et puis finalement, il a épousé une certaine Dani. Il faisait des études d'interprète en Belgique. Et 3 mois après leur mariage, elle est décédée. Un matin, il s'est levé et sa femme était décédée à côté de lui, d'un anévrisme au cerveau. Et ses parents m'ont téléphoné. Ils connaissaient, mais ma foi, jeune chrétien, je précise. Et ils m'ont dit, Michel, il faut que tu viennes aider notre fils. Il s'appelait Michel. Et alors, ils m'ont invité, il y avait plein d'amis de la famille, on a ouvert la Bible, on a parlé du Seigneur. Et j'ai eu la joie, pour la première fois dans ma vie, à amener quelqu'un au Seigneur. On est allé faire un séjour de ski ensemble, et je ne savais pas comment amener quelqu'un au Seigneur. J'avais lu le livre « Comment amener des âmes de Christ à Christ de Thorée ». Donc, je dis, écoute, il y a un chapitre qui est pour toi, là, tu es un raisonneur, lis ça, c'est pour toi. Il a compris, il s'est mis à genoux, on s'est mis à genoux ensemble, dans cette chambre où on était ensemble, il a donné sa vie au Seigneur. Jésus-Christ. Et je me suis dit, si Dieu peut nous utiliser malgré nos limites de compréhension biblique, de connaissance, d'expérience, pour amener quelqu'un au Seigneur, pour passer de la mort à la vie, alors c'est possible de le faire avec d'autres. Et un jour, j'étais sur ma table à dessin, en train de dessiner, et Dieu m'a dit, Michel, il y aura toujours des architectes, mais toi, veux-tu me servir pour l'éternité? Et là, j'ai lutté, hein. Et puis finalement j'ai dit oui Seigneur, parce que je me suis souvenu, d'ailleurs comme Louis l'a dit tout à l'heure, j'avais dit au Seigneur, si un jour je suis sauvé, c'est tellement beau, si un jour je suis sauvé, Seigneur, je te servirai toute ma vie. Et puis il m'a pris au mot, figurez-vous, et voilà, et donc j'ai la joie de le servir depuis de nombreuses années. Gloire à Dieu, merci de votre écoute, et que ce témoignage puisse servir à fortifier notre foi à chacun et à aimer le Seigneur de tout notre cœur, parce que la connaissance de sa parole, dit les proverbes, feront les délices de ton âme. Il n'y a pas de plus belle connaissance que connaître Dieu, son Fils Jésus-Christ et la parole de Dieu. C'est la vraie satisfaction intellectuelle. Voilà, je laisse la place à Christina, je pense. Okay.